Marmite fait son actu tous les mercredis de 17h à 18h en direct sur Marmite FM 88.4. Retrouvez toute l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Revues de presse, cinéma, consommation responsable, agenda culturel et sportif, nos invités vous parleront de leur actu. Marmite fait son actu, une émission présentée par Nouradine Agne sur Marmite FM 88.4.
Bonjour à toutes et tous, vous écoutez Marmite fait son actu sur Marmite FM 88.4. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 18h pour vous parler de l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Mes invités, Marie De Brouwer, qui est journaliste et auteur du documentaire La grosse vie de Marie, un documentaire qui parle de grossophobie, sujet que l'on aborde rarement. Eh bien, ce sera l'occasion aujourd'hui de découvrir ce sujet passionnant. Je recevrai également Gaël Pinault, qui est responsable du cinéma Le Grenier à Trappes, pour parler de la réouverture du cinéma. C'est le mercredi prochain, donc mercredi 1er juillet. Ah, les fans de cinéma attendaient ça depuis le début du confinement. Les chroniques de Marmite Actu sont toujours au rendez-vous avec Caroline, d'abord, et son actu yvelinoise. Caroline nous parlera du lancement du Pass Malin. Le Pass Malin, c'est un pass qui permet notamment d'avoir des sorties culturelles et de loisirs à prix réduit pour les habitants des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Dans sa Minute Conso, Pierre de l'UFC Que Choisir nous expliquera pourquoi les compagnies aériennes en France n'ont toujours pas remboursé leurs clients suite aux annulations de vols liées à la crise du Covid. Il nous donnera notamment l'exemple de l'Espagne, dont le gouvernement entend forcer les compagnies à rembourser les clients. Le Flash Actu, c'est à 17h30. Allez, on va commencer cette émission comme à notre habitude en musique. On revient juste après avec Gaël pour parler de la réouverture du cinéma.
Oh, yeah. Masaya. A for mamuna ni kongo bene na
na ni kongo bene
ni tefe
ora ni nu tefe
mene ma fosike
mene ma fosike
fataya
fataya
la c'est ne sont pas ceux qui baisseront les bras la vie ne nous laisse pas de choix. Être africain ici pas est un combat en soi. Les droits qui sont les miens sont différents. Pourtant je suis un être humain et seule ma couleur me diffère de toi. Ceux qui baisseront les bras la vie ne nous laisse pas le choix. Être africain ici pas est un combat en soi. Les droits qui sont les miens sont différents. Pourtant je suis un être humain et seule ma couleur me diffère de toi. À contre-cœur je quitte ma patrie. Comme nombreux africains je fuis la misère et ses cris. Vivant au jour le jour, je lutte sans cesse pour éviter mon retour. Pourquoi sommes-nous pris pour des proies? Pourquoi suis-je un ennemi pour toi? Pourquoi devrais-je mourir de faim sans lutter pour un meilleur destin? Masaya, Munani Kongo Benena, Mimorosi Dendemena. Masaya, Muna Urutefe Mafosike, Fatayan. Deye ne la se oluma Masaya
Masaya
Masaya Munani Kongo Benena
Munani Kongo Benena
Memogo si tentemena
Memogo si tentemena
Masaya
Masaya
Masaya Muna Urutefe
Mafosike
Fatayan. De Guinée, du Ghana, du Sénégal au Lima, de Gambie, du Bénin, de Côte d'Ivoire au Togo.
Fantaya,
Fantaya. Un même instinct de survie face à cette injustice qui nous unit. Du Niger au Congo, de Sud-Africa au Kenya, d'Algérie, Tunisie, Maroc ou même de l'Éthiopie. Nous luttons tous afin que meilleurs soient nos destins.
Que meilleurs soient nos destins.
Masaya,
Masaya,
Masaya. Munani Kongo Benena,
Munani Kongo Benena,
Memogo si tentemena,
Memogo si tentemena,
Masaya,
Masaya,
Masaya. Muna Urutefe,
Muna Urutefe,
Mafosike, Deye ne la se oluma.
Ne sont pas ceux qui baisseront les bras, la vie ne nous laisse pas de choix.
Être africain ici pas est un combat en soi. Les droits qui sont les miens sont différents. Pourtant je suis un être humain et seule ma couleur me diffère de toi. Ceux qui baisseront les bras la vie ne nous laisse pas le choix. Être africain ici pas est un combat en soi. Les droits qui sont les miens sont différents. Pourtant je suis un être humain et seule ma couleur me diffère de toi.
Laissez-moi vous demander à tous pourquoi des
peuples ont si faim, laissez-moi vous le dire. Entre aujourd'hui et demain, c'est des milliers qui périront de faim. Moi, je veux rester persuadé que demain, tout cela va changer. Moi, je veux rester persuadé que jamais plus ce regard m'accusera d'être étranger. Non, 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 ça y a de déranger. Non, 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 d'être étranger. D'être étranger, de non, déranger, non, non, d'être étranger, de non, non, déranger, non, non, d'être étranger, c'est faire ma posité. Fataya, la série, n'est ma posité, n'est pas le choix, n'est ma posité, 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 n'est pas le choix.
À bout sur les ondes de Marmite FM 88.4 avec le titre Masaya. Il est 17h, passé de 7 minutes tout pile. Vous écoutez Marmite fait son actu comme tous les mercredis de 17h à 18h. Nous sommes en direct pour vous parler bien sûr de l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Allez, tout de suite, on reçoit Gaël Pinault qui va nous parler cinéma. Ah bah tiens, comme c'est étonnant. Gaël.
Tout de suite, l'actualité du cinéma Le Grenier à sel avec Gaël.
Gaël Pinault, bonjour.
Bonjour Noradine, bonjour tout le monde.
Ah bah content de te retrouver après ces longues, longues semaines, même des mois, de confinement et puis de fermeture de cinéma. Les cinémas qui ont rouvert donc leurs portes officiellement depuis le 22, donc depuis lundi dernier. On attend un tout petit peu pour le grenier à sel, hein, ce sera la semaine prochaine. Première question, comment ça s'est passé le confinement, Gaël, au niveau du cinéma, parce que voilà...
Oui.
Vous continuez à garder quand même un contact avec les personnes qui fréquentent, avec vos habitués.
Eh bien, comme tout le monde, on a été surpris et on a eu quelques jours à comprendre ce qui se passait et à savoir comment s'adapter, comment réagir. Donc au début, là, pendant une, deux semaines, on n'a pas fait grand-chose. On se tenait au courant entre collègues. Des avancées, de ce qu'il fallait faire au niveau technique et tout ça. Et notamment parce que les projecteurs, ils n'aiment pas rester trop longtemps en sommeil. Donc il a fallu revenir une fois par semaine, les réveiller, les remettre en marche, même pas longtemps, une heure ou deux, juste comme ça, et puis les réteindre. Donc il a fallu mettre tout ça en place. Ensuite, on s'est dit que ça a commencé à durer, que ça allait durer. Donc on a cherché des petites un moyen de donner des nouvelles aussi à nos spectateurs, parce que quelques personnes nous ont demandé. Donc on a envoyé des petites infos techniques, des petits messages personnels, des petits coups de cœur, ce qui a permis à toute l'équipe de d'écrire et de donner son avis et sur des films, sur ce qu'ils avaient envie de dire, sur des souvenirs de cinéma. Voilà, et puis après, on est passé dans une deuxième phase qui a été un peu plus difficile, qui était d'anticiper une potentielle réouverture, retour de l'équipe en télétravail, en présentiel, comme on dit. Il y a des choses qu'on ne peut pas vraiment faire en télétravail, hein, dans notre métier. C'est sûr qu'on ne peut pas faire de la billetterie, on ne peut pas projeter un film de chez nous, c'est impossible. Donc ça a été un petit peu difficile pour nous de le vivre comme ça à distance. Donc voilà, là, il a fallu faire plein d'hypothèses, tous les jours une hypothèse avec comment on allait rouvrir, ce qu'on allait faire cet été. Ah bah non, on ne peut pas faire comme ci, ah bah non, on ne peut pas faire comme ça. Donc on a beaucoup travaillé pour rien, à essayer de faire des choses mais qui ne verront jamais le jour. La ville de Trappes a aussi voulu faire des grandes animations pour faire vivre la ville cet été. Donc vous serez bientôt au courant de plein de choses qui se passent. On a évoqué des choses en lien avec le cinéma. Certaines choses vont se faire, d'autres ne vont pas se faire. Il y aura des ateliers de bruitage, il y aura des petites choses comme ça. On vous tiendra au courant plus tard, un petit peu plus tard quand ça sera officiel. Et voilà, donc nous on a fini par on a été pris de court aussi par la décision de réouverture. On était beaucoup en contact avec toutes les instances de cinéma. Avec
tu pensais que ce serait plus tard ?
Eh bien, on se disait qu'il allait y avoir un message début juin des autorités nous annonçant une possible réouverture du cinéma. Et on nous avait dit que de toute façon, on nous laisserait le temps pour mettre en place le protocole sanitaire, et on laisserait le temps aussi aux distributeurs de remettre leurs films sur le devant de la scène, parce que les films, ça fait 3 mois qu'on n'en a pas entendu parler. Donc les films ne sont plus connus, les films n'existent plus. Et donc il fallait un petit peu le temps pour remettre un petit peu de publicité pour ces films. Et en fait, on nous a dit vous pouvez rouvrir à partir du 22. Ah vache, nous on se pensait qu'on rouvrirait plutôt début juillet.
Ouais.
Donc les distributeurs n'étaient pas prêts, les exploitants de cinéma n'étaient pas prêts, tout le monde est parti un petit peu à la course pour rattraper ce temps. Les cinémas ont pu rouvrir à partir de lundi, effectivement. Les films qui sont actuellement en salle sont des films qui étaient déjà datés, qui étaient sortis au mois de mars, mais qui sont mort-nés, hein, puisqu'ils ont eu 2-3 jours d'exploitation. Ces films-là ont eu des dérogations pour sortir en VOD. Tout le monde n'a pas choisi de sortir en VOD. Certains ont choisi de garder l'exclusivité pour la salle. Et je remercie ces distributeurs d'avoir fait ce choix. Et donc, la contrepartie, c'est que nous, on va aussi programmer ces films dans nos salles. Je rappelle que nous, on avait un programme qui devait commencer le 17 mars, il me semble, et qu'on a fermé le 13 au soir, ouais. Le 14 au soir. Donc, le film, on avait 4 semaines de programmer. Donc, 4 semaines, ça fait entre 20 et 25 films de programmer que l'on n'a pas pu passer. On va essayer de rattraper un peu le retard pour reprogrammer certains de ces films. On ne pourra pas tout reprendre parce qu'il y a d'autres films qui se programment entre-temps. En ce moment, c'est un peu compliqué.
C'est un peu compliqué.
Des films qui se datent, qui s'annulent, qui reviennent, voilà, il y avait Warner qui avait affirmé que le prochain Wonder Woman, que le prochain film de Nolan qui s'appelle Tenet, il avait affirmé qu'il sortirait à des dates précises et qu'il soutiendrait les cinémas qui ne bouleverseraient pas leur date. Mm-hmm. Et finalement, ils ont décalé leurs films. Donc on comptait un petit peu dessus, c'était un petit peu les blockbusters de l'été, on comptait un petit peu dessus. Et
ce ne sera pas pour cet été.
Ça sera pour cet été, mais beaucoup plus tard que prévu. Mmh. Et pour quelle raison ? Bah déjà parce qu'aux États-Unis, ça rouvre et ça referme. C'est un peu, y a beaucoup de cinémas, notamment à New York, en Californie, qui sont fermés. Et en Chine, il y a beaucoup de cinémas qui referment, qui reconfinent. Donc si les deux marchés, les plus gros marchés du monde ne sortent pas Wonder Woman et le Nolan, ça va pas le faire.
Ça va être compliqué. Alors, du coup,
le film sera mort. Oui.
Alors du coup, Gaël, vous rouvrez le 1er juillet prochain, mais vous faites une petite, vous faites une proposée pour les habitués notamment, et peut-être pour d'autres aussi, hein, de faire une petite pré-ouverture, hein, si on peut appeler ça comme ça, une soirée.
On fait une soirée de réouverture la veille, donc le mardi 30 juin à 20h45, nous avons sélectionné un film pour faire une avant-première, donc c'est un film qui sortira au mois d'août, normalement, hein. C'est un film qui sortira en août et qu'on a réussi à en avoir en avant-première, donc le mardi à 20h45. Et
un film français.
Un film français réalisé par Claire Lane. Mmh. Et dans lequel on retrouve. C'est Marion Lane, c'est pour ça que ça, je buguais là. Ouais. C'est Marion Lane, qu'on connaît dans certains rôles, elle est plutôt actrice en général. Et on retrouve Sandrine Bonner et Horatica dans les rôles principaux. Et bien sûr, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce film, il est sur le monde de des soignants, la santé. Donc après toutes les manifestations qu'on a connues,
ouais, ça tombe
la crise
à propos,
sanitaire, ouais. Le Ségur pour la refondation du système de santé, je pense qu'on est... il arrive bien pour alimenter notre réflexion sur ce sujet, et c'est super. Donc ça s'appelle Voir le jour, ça se passe dans une maternité à Marseille, et le personnage principal est incarné par Sandrine Bonner, et elle est auxiliaire dans une maternité, et elle est aussi maman, elle est aussi femme, et il se passe, il y a son passé qui ressurgit, il y a sa jeune fille qui a 18 ans, il y a des problèmes de manque d'effectifs et de pression au travail. Voilà, c'est super. Évidemment, dans un cadre de déconfinement partiel, on ne peut pas avoir la réalisatrice ou les actrices en physique dans la salle. Mm-hmm. Par contre, elles nous ont enregistré un petit message que l'on passera en première partie du film.
Mm-hmm. Et sympa.
Ouais, c'est plutôt chouette. Je suis assez content qu'on fasse cette avant-première et qu'ils pensent un petit peu à nous. Je précise que comme ce sera un mardi soir, pour ceux qui sont abonnés chez Orange, le mardi soir, Orange offre une place achetée, une place offerte. Donc il faut s'inscrire, penser à regarder sur notre site pour le faire. Mm-hmm. J'en profite aussi pour dire que on a mis beaucoup de choses en place pour un protocole sanitaire.
Ouais.
Et ça nous a fait beaucoup travailler aussi. Le protocole, il change un peu tous les jours, donc on a du mal à s'adapter des fois. Mais notamment, il y a une des choses qui est beaucoup mise en avant, c'est d'éviter de se passer des pièces, de se passer des billets, des tickets de cinéma de main en main. Mmh. Et donc, il vaut mieux favoriser l'achat de billets dématérialisés,
ouais.
Donc en ligne. Donc nous, on a ce système-là depuis quelques mois, depuis plusieurs mois maintenant, hein, avec les 3 mois de confinement. Donc pensez à regarder sur notre site et à acheter vos places en ligne. Sinon, on a fait comme tout le monde, on a augmenté le plafond pour la carte bancaire sans contact. Alors, comment ça va se passer en salle? On va faire ce qui est très difficile au grenier à sel. Vous connaissez l'espace qu'il y a, le peu d'espace qu'il y a dans le hall notamment.
Ouais.
Le plus difficile, ça va être les circulations et les flux de personnes. Il faut éviter de se croiser et il faut que chacun ait son espace de sécurité. Donc la plus grosse difficulté, c'est les croisements. Ouais. On a réussi à régler le problème et les distanciations, les croisements, les flux et tout. Par contre, il y a une nouvelle règle qui est tombée le dimanche matin, c'est que le port du masque est obligatoire dans tous les espaces de circulation.
Ce qui paraît tout à fait normal, hein, ouais, logique.
Sans masque, on ne vous laissera pas rentrer, on n'a pas le droit. Venez avec votre masque. Il y a, en plus de cette mesure nationale, il y a aussi un arrêté municipal qui dit la même chose. Tenez, tous les accès aux équipements municipaux se fait avec un masque, c'est obligatoire. Par contre, en position statique, je reprends un peu les termes officiels, en position statique, il est possible d'enlever son masque si les distances la distanciation est respectée.
Ouais.
Et on nous demande de laisser, et c'est là que c'est intéressant aussi dans les règles, pour venir au cinéma, c'est qu'il faut laisser un fauteuil libre à gauche et à droite. Un fauteuil libre, si on est en famille et qu'on vient à 3, 4, 5, on se met ensemble et on laisse un fauteuil à droite, un fauteuil à gauche.
D'accord.
Si on vient tout seul, on prend une place et on laisse un fauteuil à droite et à gauche. Mm-hmm. Si on vient entre amoureux ou futurs amoureux, on se colle et on laisse la place aux autres. Voilà. Ce qui est important, c'est que les gens avec qui on ne partage pas spécialement l'espace d'habitude, mm-hmm. Qu'ils puissent avoir leur espace à eux. Donc, on peut retirer son masque, on peut, à la condition de respecter ce fauteuil. Et donc, on aura nos collègues projectionnistes, Cyril et Jean-Luc, qui seront en salle pour aider à installer les personnes, parce que c'est un peu difficile aussi, nous,
d'estimer. Ouais, ça demande une petite logistique, oui.
Ça demande un petit peu de logistique, oui. Combien de places, il va falloir que je reparaître la jauge de mon logiciel, avec une place à droite et à gauche, entre les individuels, mais aussi entre les groupes. Ça fait combien de fauteuils libres qu'il faut laisser? Combien de fauteuils restent disponibles? Mmh. Plouf, plouf, voilà. Donc on limite un petit peu notre jauge, mais on est très content de revoir du monde et de faire appliquer ces choses-là, parce que ça fait plusieurs semaines qu'on bosse dessus et on fait du ménage. Aujourd'hui, on a nettoyé, hier tous les fauteuils ont été nettoyés, aujourd'hui c'était la moquette qui était nettoyée, ça sent bon dans la salle, voilà j'ai...
c'est bien vendu.
C'est vrai, parce que là, j'en viens de la salle à l'instant, et effectivement, on est très content parce que ça sent bon dans la salle et ça fait du bien.
Et surtout, puisque c'est un cinéma et qu'on va venir voir des films, du coup, qu'est-ce qu'il y aura à l'affiche à partir du 1er juillet?
Oui, alors donc on commence effectivement par voir le jour en avant-première le mardi 30 juin à 20h45, mais notre ouverture elle se fait finalement le lendemain, le 1er juillet. Nous avons, comme je disais, repris des films qui étaient programmés précédemment, et donc nous aurons un film pour les enfants qui s'appelle Bayala, c'est un film plein de couleurs avec des fées, des dragons, et on a des petits goodies à offrir aux premiers enfants qui viendront. Nous, on le conseille, Bayala, on le conseille à partir de 5 ans. Nous avons, pour les plus grands, nous avons De Gaulle que nous n'avons finalement pas passé, ouais. Donc avec Lambert Wilson qui incarne De Gaulle d'une façon phénoménale, et puis avec Isabelle Carré qui fait Yvonne De Gaulle, qui est tout aussi incroyable dans ce rôle. Nous avons aussi La Bonne Épouse de Martin Provost avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lovski, Édouard Baer, François Berléand. On est dans les années 60, fin des années 60, et le film se passe dans un foyer où les femmes apprennent à tenir leur foyer et apprennent leur devoir conjugal, et etc. Donc on est vraiment dans un truc complètement has-been, et justement, la directrice de ce centre commence à avoir des idées un petit peu... Ses certitudes vacillent, quoi. Vacillent et commence à rencontrer des gens, et ça lui fait... Ah non, je ne vais pas tout raconter, mais donc on commence à parler de la liberté de la femme, et c'est vraiment chouette, c'est une comédie avec des grandes actrices, et on rigole bien, c'est vraiment... Ça fait du bien de voir ça. Pour se déconfiner, c'est super. Nous avons aussi Un fils de Mehdi Barsaoui, c'est un film franco-tunisien, que l'on avait programmé en avant-première au mois de janvier dans le cadre du festival Télérama. On retrouve Sami Bouajila dans le rôle principal, et donc on est dans... C'est un film qui se passe en Tunisie. C'est les parents, Farès et Meriam, et ils ont leur fils de 9 ans qui s'appelle Aziz. Et ils sont dans leur voiture, dans le sud de la Tunisie, et leur voiture est prise pour cible par un groupe de terroristes. Et leur petit garçon est blessé, gravement blessé. Donc la question, c'est qu'en Tunisie, ils n'arrivent pas à le soigner, et il va peut-être falloir aller en France pour le soigner. Ils se posent plein de questions à ce sujet-là. C'est un film, c'est un drame assez, assez difficile. Il a eu beaucoup de récompenses dans les festivals. C'est un vrai beau film qui était sorti juste... Voilà, ça c'est typiquement le film qui est sorti juste au moment du confinement. Et il n'a pas vécu, quoi. Il n'a pas eu de vie en salle, donc on le reprend et on le soutient, et on aimerait bien que la plupart des gens le découvrent. Une chose importante que j'ai pas dite, c'est que pendant l'été, nous allons rester ouverts tout l'été.
Oui.
Pour pouvoir quand même que nos collègues puissent partir un peu en vacances. Ça veut dire qu'on va un peu adapter nos horaires, et donc sur une période de l'été, on va avoir des horaires un peu allégés. Il y aura moins de séances, mais aussi pour pouvoir être réactif avec les sorties de films, les annulations de films, les confinements, reconfinements ou pas, parce que je ne souhaite pas évidemment. On a choisi de faire un programme sur 2 semaines. D'habitude, on le fait sur 4 semaines.
Sur 4 semaines. Ouais.
Donc là, on voudrait être réactif des fois que, je ne sais pas, Wonder Woman change sa date de sortie. Et se rapproche, ce dont je doute aussi, mais voilà, on voudrait quand même être réactif s'il y a des films qui se datent et d'autres films qui s'annulent. Donc là, on a, je vous ai dit, la première semaine, mais on a aussi daté les films du 8 juillet, mais on en reparlera la semaine prochaine, parce que là, je risque de m'en reparler encore pendant un quart d'heure.
Merci en tout cas, Gaël. Bon, on voit en tout cas que, voilà... Toute l'équipe du Grenier à sel doit être super contente aussi, là, j'ai aussi de reprendre l'activité, de revoir des gens et puis de pouvoir projeter des films. Donc on encourage tous les trappistes, hommes et femmes, et puis les 5 continents plus largement à venir au Grenier à sel pour la réouverture.
Oui, donc, tout à fait. Revenez au Grenier à sel. Ouais.
Donc le mardi soir, 20h45 pour voir le jour. Oui, voir le jour, c'est ça. Et puis après, à partir du 1er juillet, voilà, c'est la réouverture officielle avec tous les films que vous pouvez retrouver sur le site du Grenier à sel, cinemagreneracel.com.
Eh ben, c'est super, Nourandine, je te remercie. J'ai un petit détail que j'ai oublié de préciser.
Ouais.
Des questions qu'on nous a beaucoup posées aussi et qui sont tout à fait logiques. Les abonnements sont prolongés de 6 mois. Tous les abonnements sont prolongés de 6 mois. Donc, vous n'avez rien perdu. Bien au contraire, on vous offre même du bonus. Voilà, on a fermé 3 mois et on prolonge de 6 mois. Vous pouvez consulter en ligne le solde de votre carte et même la recharger si besoin. Vous avez accès à tout ça sur notre site. Donc, voilà, c'était la dernière information que je trouvais importante de dire. Ah, si, autre chose.
Ah, vas-y. Allez, profitez-en, c'est la rentrée.
Allez, 2 secondes, je prends toute la place dans ton émission, je suis désolé, dans mon Itactu. Comme on n'a pas envie de distribuer éventuellement des virus, on va aussi éviter de distribuer des programmes papier, donc on n'ira pas dans les commerces distribuer nos programmes. Sachez-le, donc pensez à regarder sur notre site, vous inscrire à notre newsletter. On va quand même imprimer des petites affichettes avec les horaires et les films, mais il n'y en aura pas partout et ce ne sera pas dans tout Saint-Quentin, ce ne sera pas dans les commerces en tout cas. Pas de programme papier cet été.
Bon, ben en tout cas, merci Gaël et puis rendez-vous la semaine prochaine.
Merci à tout le monde, merci Nouradine et puis content de revenir à l'antenne et donc à la semaine prochaine. Au revoir.
Voilà, on retrouve Gaël la semaine prochaine. Vous écoutez Marmite fait son actu sur Marmite FM 88.4. Allez, un petit peu de musique et juste après, 17h30 précise pour le flash d'actualité locale. À tout de suite. Marmite fait son actu sur le 88.4, 17h passées de 30 minutes. Et allez, je vais vous donner quelques petites informations locales et surtout une information locale qui concerne les transports en commun, puisque Île-de-France Mobilité a dévoilé aujourd'hui son plan de travaux pour cet été. Par conséquent, il y a de nombreuses lignes de métro, des RER, transiliens et tramways qui vont connaître des perturbations au cours de l'été 2020. On va commencer avec le RERC hein, qui concerne notamment les Saint-Quentinois, avec la ligne qui sera impactée par des travaux entre le 15 juillet et le 22 août. Le trafic sera interrompu notamment entre Austerlitz et Javel et entre Austerlitz et avenue Henri Martin. Au niveau du transilien, il y a également plusieurs perturbations, notamment concernant la ligne J et N qui sera interrompue donc les week-ends du 18 au 19 juillet, du 1er au 2 août et du 8 au 9 août entre Épône Mézières et Mantes-la-Jolie, et puis les 29 et 23 août, les 29 juillet pardon, 23 août entre Mantes-la-Jolie et les Mureaux. Et puis concernant la ligne L, ben c'est les lignes qui seront fermées entre la Défense et Saint-Cloud et la Défense et Surélément-Valérien le week-end du 4 et 5 juillet. Donc ça c'est bientôt là. Et puis le week-end du 11 et du juillet, la circulation sera interrompue entre les gares de Saint-Cloud et Versailles et Rive-Droite. Et puis on va terminer avec la ligne H qui sera également concernée avec plusieurs fermetures à venir. Et puis le tramway également pour le côté du T1, du T2, du T3, du T5 et du T6. Voilà le T6 qui peut concerner également nos auditeurs avec la fermeture entre Georges Pompidou et Vélizy 2. Donc ça c'est du 17 au 23 août. Voilà, si vous souhaitez avoir toutes les informations concernant ces travaux et puis toutes les perturbations qu'il va y avoir pendant cet été, ben n'hésitez pas à aller sur le site de la région Île-de-France. Donc, vous tapez IDF hein, sur un moteur de recherche, vous tomberez directement sur leur site internet. Allez, il est 17h, passé 32 minutes. Tout de suite, on accueille la deuxième invitée de Marmite Actu.
L'invité de Marmite fait son actu, c'est tout de suite sur le 88.4.
Marie De Breuer, bonjour.
Bonjour.
Journaliste et auteur du documentaire La grosse vie de Marie, un documentaire où vous nous parlez principalement de grossophobie, du harcèlement à l'école, à la discrimination, à l'embauche en passant par la vie affective. D'ailleurs, pour commencer ce documentaire, vous y allez fort puisque vous vous présentez. Vous dites donc bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 25 ans et je pèse 113 kilos. Voilà, ça c'est pour donner une idée un petit peu de la tonalité du documentaire. Alors déjà Marie, comment est née l'idée de faire ce documentaire sur la grossophobie ?
Bah, moi, je suis une femme grosse qui vit la grossophobie au quotidien. Et je pense que j'ai vraiment eu l'idée au moment où j'ai réalisé que le mot grossophobie existait, que cette discrimination existait. Pour moi, c'était normal qu'on se moque de moi, qu'il y ait des problèmes, puisque de toute manière, c'était de ma faute si j'étais grosse. Et puis, je me suis rendu compte que tout ça, c'était faux. Ouais. Et donc, j'ai vraiment eu envie de faire ce documentaire pour passer ce message-là. Et voilà, c'est le moment où j'ai réalisé ce que je vivais, quoi.
Et ça s'est passé quand, cette prise de conscience, là ?
C'était il y a 5-6 ans, notamment grâce au collectif Gras Politique, qui est le premier collectif en France à être anti-grossophobie. Mmh. Et donc oui, c'était il y a 5-6 ans.
D'accord. Alors Marie, c'est un documentaire, on dit que c'est un documentaire incarné, c'est-à-dire que vous racontez votre propre parcours en recueillant également des témoignages de particuliers ou de spécialistes. Alors avoir voulu faire un documentaire qui partait de votre expérience et pas un documentaire classique, hein, vous allez faire des interviews, aller voir des gens et tout ça, est-ce que c'était important et est-ce que c'était capital pour faire passer justement le message ?
Bah, je pense que l'incarnation, elle était importante parce que il y a une liberté de ton, je peux totalement raconter ce que j'ai envie de raconter et aller au plus profond des choses, puisque c'était moi que ça touchait, c'était ma vie que j'allais exposer aux gens, et je savais que j'étais capable en fait d'entendre des critiques ou des retours sur ma propre histoire, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres témoins. Ouais. Et puis c'est aussi une liberté de ton avec France TV Slash, donc le média sur lequel c'est diffusé. Ouais. C'est un média web qui est pour les jeunes de 15-25 ans, et du coup il y a vraiment un aspect différent du documentaire classique, où je peux parler naturellement, être moi-même, et ça me donnait envie sur un sujet comme celui-là.
J'ai 25 ans et je pèse 113 kilos, et j'ai toujours été toute ma vie plus grosse que la moyenne. On m'a dit des phrases vraiment pas cool, on m'a dit que si j'étais plus mince, je serais tellement plus jolie, que j'avais un si joli visage, donc c'était trop dommage, tout ce poids en trop. J'ai entendu des propos hyper violents, que ce soit de camarades, de membres de ma famille, même de médecins. Et tout le monde m'a dit de me mettre au sport, alors que j'en faisais déjà. On m'a dit de maigrir. Alors j'ai fait des régimes, et ça a marché une fois, deux fois, mais à chaque fois j'ai repris le poids, donc c'était vraiment un échec, quoi.
Mais justement, parlons de grossophobie. Comment on appelle un gros ou une grosse en général? Parce que vous savez, les gens, ils détournent en disant forte, ronde, enrobée, enfin, il y en a des centaines. C'est un petit peu comme pour les noirs. Hein. Pour ne pas dire noir, on dit black ou d'autres termes. Et en général, quand il y a quelque chose qui se passe comme ça, c'est qu'il y a un souci, qu'on ne veut pas en fait, utiliser ces termes.
C'est vrai qu'il y a tous ces mots rond, ronde, tout ça, pour pas dire gros. Mais en même temps, c'est parce que ce qui était juste un adjectif, parce que c'est un adjectif, être gros, est devenu une insulte. Et je pense qu'il y a certaines personnes grosses, d'ailleurs, qui préfèrent dire qu'elles sont rondes. D'accord. Parce que dans leur enfance, elles ont entendu trop de fois « sale gros », et du coup, c'est un mot avec lequel ils sont pas à l'aise. Moi, personnellement, je dis que je suis une femme grosse parce que je veux dédiaboliser ce mot-là.
D'accord.
Oui, je suis une femme grosse, c'est pas grave. Souvent, c'est dit un peu comme si c'était un truc hyper grave, etc. Bah, non, c'est un adjectif qui me qualifie, c'est ce à quoi je ressemble. Et c'est la raison pour laquelle je suis discriminée au quotidien. Donc, voilà, moi, c'est une volonté de dédiaboliser le mot. Mais après, je pense qu'il faut demander à chaque personne grosse comment elle a envie de se nommer pour ne pas paraître pour la méchante ou le méchant.
Alors, dans le documentaire, on parle beaucoup de discrimination, hein, et puis ça commence même avec du harcèlement. Dès l'école, avec les remarques déplacées des camarades, les insultes, les vexations. Mais également, ce qui a été marquant pour moi, en tout cas, en voyant le documentaire, c'est l'absence de lieu d'écoute ou d'intervention des adultes qui ont plus tendance, soit quand c'est vraiment le pire, à suivre carrément le mouvement ou à enfoncer un peu les jeunes qui vont souffrir de grossophobie. Est-ce que ça vous est arrivé? Alors, il y a un témoignage dans le documentaire qui va dans ce sens, mais est-ce que vous aussi, ça vous est arrivé, ça, petite?
Moi, petite, je n'ai pas été particulièrement harcelée scolairement. Je pense que j'ai très vite mis une carapace en me disant plutôt que les autres se moquent de moi, je vais me moquer de moi-même, je vais faire des blagues. La bonne copine grosse qui fait des vannes... Et ça l'a fait, même si ça a affecté moi, ma personne, mon estime de moi à ce moment-là, qui est déjà un peu compliqué pour tout le monde au collège, je le sais.
Ouais.
Et du coup, j'ai pas été particulièrement harcelée. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a Emily dans le documentaire qui donne son propre témoignage.
Oui.
Et puis sur le fait de pouvoir parler à des adultes, le problème c'est que les adultes aussi sont grossophobes. C'est une discrimination où tout le monde est grossophobe, même les personnes grosses. Et du coup... souvent la solution ça va être faire des régimes, change, c'est de ta faute quoi. Alors que non, c'est soyez pas méchant, c'est ça le vrai problème, c'est la méchanceté.
Et la famille dans tout ça, parce que c'est peut-être là aussi que ça commence, hein, le regard que va porter la famille sur son enfant ou son enfant gros ou grosse.
Oui, la famille, souvent ça vient des parents parce que il y a une culpabilité qui est mise sur les parents. Sur le fait que si mon enfant est gros et que je suis mince, c'est-à-dire que j'ai échoué et que mon enfant du coup n'a pas suivi le même rythme que moi alimentaire ou quoi, donc j'ai échoué quelque part. Et à l'inverse, si c'est un parent gros, c'est j'ai échoué parce que mon enfant fait la même chose que moi. Et donc en fait, il n'y a pas trop de solutions. C'est la culpabilité qui est portée aux parents et par les amis, ou même eux-mêmes, qui fait qu'on voilà, sous couvert d'une inquiétude pour la santé, pour son enfant, en fait, on va stigmatiser très très jeune pour des enfants qui sont pas forcément obèses, parfois qui sont... Moi, je m'en suis rendu compte pendant un documentaire. Je suis pas particulièrement grosse quand je suis petite, mais pourtant, tout le monde m'a fait ressentir cette grosseur. Mmh. Et du coup, ça a sûrement entraîné à l'âge adulte des problématiques avec l'alimentation, etc. Mmh. Donc la famille joue un rôle primordial.
Et est-ce qu'il y a une injonction au régime qui revient souvent? Comme si c'était uniquement une question de volonté ou de mauvaise hygiène alimentaire, ça peut-être être le cas parfois, mais voilà, est-ce qu'il y a cette injonction qui revient régulièrement de la famille ou même du milieu médical ou d'autres?
C'est constant, ce supposé mal manger des personnes grosses, qui d'ailleurs, même si elle était vraie, et que quand elle est vraie, c'est aussi souvent des raisons de troubles du comportement alimentaire, donc ça reste quelque chose de maladif, quoi. On porte on va porter le problème de la grosseur sur la personne, sur l'individu, sur son hygiène de vie, alors qu'on se rend bien compte qu'il y a un problème général de la population grossie pour mille et une raisons.
Ouais.
Et forcément, la famille joue un rôle. Il faut savoir que le premier régime, c'est quand même 8 ans en moyenne en France.
Ah oui, 8 ans, d'accord.
C'est tout petit, c'est même pas en pleine croissance, c'est au tout début de la croissance. Et il y a 60% des filles de 9 à 12 ans qui ont déjà reçu des commentaires sur leur poids. Et c'est hallucinant parce que du coup, on se préoccupe du poids à un âge où on ne devrait pas s'en préoccuper et ça crée des troubles du comportement alimentaire, etc. Et ça fait grossir en fait. La grossophobie, elle fait grossir.
Claire a 30 ans et toute sa vie, elle a subi la violence des médecins.
Mon pire souvenir, c'est pas à l'âge adulte. C'est plus jeune, c'est quand j'avais 14-15 ans. En gros, j'ai été mise en clinique pour obèse ou je sais pas quoi, voilà, spécialisée dans l'obésité. Et j'étais suivie par une nutritionniste. Elle m'a dit que je finirais handicapée dans un fauteuil roulant et que je prenais la place de quelqu'un qui avait vraiment envie de s'en sortir. Pour moi, le pire, c'est au niveau de la gynécologie. Où là, non, en fait, j'évite quoi, le plus possible.
Marie Debreuer est notre invitée, journaliste donc et auteure du documentaire La grosse vie de Marie, que vous pouvez voir sur France TV/, un documentaire qui parle de grossophobie.
Alors justement, dans les témoignages que vous avez, il y a beaucoup de filles, il y a principalement des filles qui témoignent d'ailleurs. Il y a un monsieur que l'on voit dans une belle séquence là, que les auditrices et les auditeurs pourront découvrir voilà, à la fin du documentaire. Alors pourquoi vous pensez qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui veulent témoigner? Vous parlez notamment du fait que, alors je ne sais pas si on peut qualifier ça de positif, hein, les auditeurs vont comprendre dans quelques instants, vous disiez que du côté des femmes grosses, en tout cas, il y a une espèce de fantasme, hein, une espèce de fétichisme qui est sur les femmes grosses, mais qui n'existe pas chez les hommes gros. Ça, c'est peut-être une des explications, mais en tout cas, vous n'avez pas réussi à convaincre des hommes de témoigner.
C'est vrai que ça, quand moi j'ai commencé à interviewer des gens en choisissant les personnes qui allaient apparaître dans le documentaire, ouais, j'ai eu 99% de femmes qui m'ont répondu à mes questions. Parce que la grossophobie, elle est d'abord aussi sexiste, c'est-à-dire que c'est le corps des femmes qui constamment, on veut constamment le modeler, et il faut être mince, mince, mince pour être belle, et quand on est une femme, être belle c'est le principal, quoi. Et bien, évidemment qu'il y a des hommes qui vivent la grossophobie. Elle est un peu différente et je pense que il y a une espèce de pudeur de pas en parler. Peut-être que c'est de là que ça vient, c'est-à-dire les hommes gros, ils sont souvent dévirilisés, c'est-à-dire qu'ils sont pas assez virils quand on est gros. Donc peut-être c'est tout ça qui fait que j'ai pas réussi à avoir de témoins hommes, mais c'est sûr que les hommes gros vivent la grossophobie aussi. Et sur la partie affective et relationnelle, les relations amoureuses, oui, les femmes sont fétichisées, ce qui n'est pas le cas des hommes gros. Ouais. Ou s'ils le sont, c'est à très petite échelle, alors que les femmes grosses, il y a vraiment une espèce de courant, quoi. Ouais.
Voilà. Vous parlez des relations intimes dans ce documentaire, car c'est également une vraie problématique voilà, de comment justement les gros et les grosses arrivent. Que ce soit sexuellement ou même dans la vie affective tout court, hein, de rencontrer des personnes. Voilà, vous avez des exemples très pratiques dans une séquence aussi qui est assez intéressante. C'est important aussi d'aborder cet aspect.
Parce que, en fait, finalement, faire l'amour, qu'on soit gros, mince, petit, grand, ça ne change rien. Mais il y a un ressenti intime et personnel des personnes grosses. Et donc, c'est ce que j'ai fait en interrogeant des personnes grosses sur leur crainte pendant les rapports sexuels. Est-ce qu'elles ont peur de pas être comme assez bien, de pas être, d'être trop lourd, d'être comme si, c'est hyper pratique. Mmh. Et même si c'est souvent infondé, parce que finalement, chacun fait l'amour comme il veut et comme il peut surtout, avec la sexologue Claire Alquier, on a voulu un peu montrer des mini-conseils, des petits trucs qui peuvent alléger un peu le poids de toutes ces questions-là, de se dire, oh là là, mais si c'est pas bien, en fait, il y a quelques astuces qui font que au moins, on n'y pense plus, on est juste là pleinement dans le moment et on n'a pas besoin de se culpabiliser encore et encore et encore.
Et ce qui est très intéressant, on va prendre une citation du documentaire, c'est Claire, je crois, qui dit « On se voit comme la société nous voit ». Donc, en quelque sorte, les gros et les grosses intériorisent également leur propre rejet, entre guillemets.
Ah ouais, mais c'est la grossophobie intériorisée, elle est hyper violente. Et souvent, on voit, moi par exemple, je vois des commentaires sous les vidéos que j'ai postées du style « moi je suis gros et je suis pas d'accord, c'est de ma faute, etc. »
D'accord.
Et c'est à se demander, on se déteste parce que la société nous déteste. Et le problème, c'est que se détester son corps, ça mène à des comportements qui sont pas bons pour la santé. Mmh. Et donc, ça peut potentiellement faire grossir. En fait, c'est vraiment un cercle vicieux. Et c'est ce que dit la psy dans le doc. D'ailleurs, elle dit que c'est la bienveillance qui est vraiment la clé. Et la bienveillance envers soi-même, elle est vraiment primordiale. Elle est même majeure. Et oui, tous les gros se voient comme la société les voit. Et c'est très, très dur avec le temps de s'en dépatouiller. Mmh.
Pour terminer, vous, vous le disiez tout à l'heure, hein, vous avez remarqué, en tout cas, vous avez... Il y a eu un déclic il y a 5 ans à peu près qui vous a fait prendre conscience de ce qu'était la grossophobie. Bon, vous avez peut-être eu quelques, ou en tout cas les personnes qui ont aussi été interrogées ont eu des séquelles ou en tout cas des événements marquants dans leur vie par rapport à tout ce qui leur arrivait par rapport à la grossophobie. Après ce film-là, comment, ce film documentaire, comment vous allez, ou comment en tout cas les personnes qui ont témoigné, voilà, est-ce que ça a eu un impact sur vous?
Bah, moi, ça a eu un impact parce que je me suis rendu compte, je pensais pas, je pense que j'ai fait le documentaire, je l'ai écrit un peu en me disant, voilà, je vais faire ça, mais c'est la première fois que j'ai vraiment un truc que je fais qui est publié à une telle audience, ouais. Et que j'ai autant de retours, et du coup, je me suis rendu compte que ce doc, il a fait du bien à plein de gens, j'ai reçu des centaines de messages, mmh. et donc moi, ça va super bien parce que je me dis que c'est utile ce que j'ai fait et que mon discours, il a aidé des gens. Et les personnes du documentaire aussi ont été hyper contentes du rendu, et tout le monde va bien. Ouais. On se bat contre la grossophobie, soit chez nous, dans nos foyers respectifs, soit même sur les réseaux sociaux, etc. C'est un long combat, mais tout le monde va bien.
Merci en tout cas, Marie de Breuer. Je rappelle, journaliste et auteur du documentaire La grosse vie de Marie, qui est disponible sur la plateforme France TV / jusqu'en 2023. Donc vous avez le temps pour le voir. Merci Marie.
Merci.
Voilà, merci à Marie et bon courage pour la suite du combat. 17h passées de 47 minutes. Vous écoutez bien sûr Marmite fait son actu. L'émission qui vous parle de l'actualité de Saint-Quentin en Yvelines et ses environs sur le 88.4. Allez, tout de suite, la Minute Conso de Pierre.
La Minute Consommateur avec Pierre Joannet.
Alors qu'en Espagne, le gouvernement a annoncé saisir la justice contre 17 compagnies aériennes qui bafouent le droit au remboursement des voyageurs, mais qu'attendons la France pour appliquer cette loi ? Cela fait des semaines que les compagnies aériennes traînent des pieds pour respecter le droit européen qui leur impose de proposer aux voyageurs le remboursement des vols annulés. Je m'alarmais déjà de cette situation au début de la crise sanitaire, et l'UFC Que Choisir s'est mobilisé pour que les voyageurs français dont le vol a été annulé ne soient pas contraints d'accepter un avoir, mais aient le droit de récupérer ou non leur argent. Malgré cette mise en demeure de 57 compagnies aériennes, puis l'assignation de 20 principales, les transporteurs aériens persistent dans leurs mauvaises pratiques. Face au lobby intense des compagnies aériennes et de certains États, dont la France, qui voulait suspendre l'obligation réglementaire de remboursement, la Commission européenne a tenu bon. Pour une fois, sa position va clairement dans le sens des consommateurs, puisqu'elle n'a pas modifié les textes européens et a de surcroît appelé les États de l'Union à les faire respecter. Cette recommandation a été entendue de l'autre côté des Pyrénées. Face aux mauvaises pratiques, le gouvernement espagnol a mis en demeure 17 compagnies aériennes qui ont bafoué sans vergogne le droit au remboursement. Le ministère de la Consommation a aussi demandé à ce que les contrats des voyageurs qui ont accepté un bon d'achat au lieu d'un remboursement, s'il a été acquis avec un consentement faussé, soit déclaré nul. Cette prise de responsabilité de notre voisin doit être soulignée et saluée. Il est espéré également que d'autres États vont se saisir de la question, mais on ne peut s'empêcher de s'interroger. Qu'attend donc le gouvernement français qui fait preuve d'un silence assourdissant sur le sujet pour se positionner et faire respecter la législation au lieu de se rendre complice par inaction de la violation des droits ?
Marmite fait son actu sur Marmite FM 88.4. Allez, tout de suite, on accueille Caroline pour l'actu yvelinoise. Bonjour Caroline.
Bonjour Nouradine.
Ça va ?
Oui, ça va bien et toi ?
Oui, ça va, super. Alors cette semaine, tu vas nous parler un petit peu de loisirs, de culture avec le passe-malin.
Oui. Je voulais vous faire profiter d'un bon plan local, puisque cet été, la tendance estivale sera nationale. Donc d'abord, une question pour toi, Nouradine. Es-tu friand de visites culturelles, de loisirs, et si oui, qu'as-tu déjà visité sur notre territoire ?
La question piège. T'aurais pu prévenir, hein ? Je n'ai rien visité. Non, le dernier truc que j'ai dû revisiter... oui, je suis friand d'abord, hein, pour répondre à ta question de toutes ces visites. Oh, j'ai dû refaire le château de Versailles, il n'y a pas... début d'année ou un truc comme ça.
Oui, ouais. Oui, bah, écoute la chronique parce que ça devrait t'intéresser. Donc, dans le cadre de leur rapprochement, les départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines ont décidé de mener une stratégie touristique commune qui s'est matérialisée dans le Pass Malin Hauts-de-Seine-Yvelines. Donc, le pass dont tu parlais juste à l'instant. Initialement, ce pass a été créé en 2014 par notre département, mais vu le rapprochement des deux départements, ce pass s'étend désormais sur deux territoires et offre donc des possibilités supplémentaires avec pas moins d'une soixantaine de partenaires culturels. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement ce pass ? Eh bien, c'est une carte qui offre 15% de réduction minimum sur les entrées ou les billets de près de 66 événements partenaires dans les Yvelines et dans les Hauts-de-Seine. Ce dispositif permet de faire bénéficier de réductions à 5 personnes maximum. Peu importe leur statut, que ce soit des membres de famille ou des amis, donc 5 personnes peuvent bénéficier de réductions. Le pass malin ne nécessite aucun abonnement ou aucun engagement, il est totalement gratuit. Donc comment et où est-ce qu'on se le procure ? Eh bien, il y a deux moyens de se procurer ce pass, soit en allant dans les offices de tourisme des Hauts-de-Seine et des Yvelines, soit en le téléchargeant sur le site web dédié. Donc je vous le donne, c'est www.passemalin.fr. Sur le site web, la démarche pour avoir cette carte est très simple. Il suffit de remplir un formulaire qui requiert un email et un code postal, pas plus. Donc une fois qu'on a donné cet email et ce code postal, on recevra un lien pour télécharger le pass malin. Et pour bénéficier de la remise, il suffit de le présenter sous la forme papier ou téléchargé sur notre smartphone à l'entrée des sites partenaires. Donc, petite précision, pour les sites et événements qui nécessitent une réservation en ligne au préalable, il faut consulter le site que je vous ai donné, www.passemalin.fr, pour avoir toutes les infos dessus. Quelques exemples de sorties à prix réduit, donc, dans les Yvelines et d'autres scènes. Alors, sur le site web, il y a 4 catégories de sorties possibles. Musées et maisons d'artistes, châteaux et monuments, spectacles et événements, et enfin nature et loisirs. Donc des exemples dans les Yvelines, vous pouvez profiter du château de Versailles à tarif réduit. Donc par exemple, le tarif adulte c'est 25 euros, et avec le pass malin c'est 20 euros. Vous pouvez aussi profiter d'une tarification spéciale pour la visite du zoo safari de Thoiry, pour France Miniature à Élancourt ou encore l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc dans les Hauts-de-Seine, vous pouvez profiter de la scène musicale ou du jardin du musée départemental Albert Kahn à Boulogne-Billancourt ou encore la maison de Châteaubriand au domaine départemental de la Vallée aux Loups à Châtenay-Malabry. Donc la liste complète des sites partenaires, elle est à retrouver sur le site internet www.passemalin.fr. Donc en conclusion de chronique, c'est un bon plan à partager. Le pass malin Hauts-de-Seine-Yvelines, une carte gratuite permettant de sortir à 5 pour profiter de loisirs, de lieux culturels touristiques à prix réduit. C'est bon pour notre porte-monnaie et c'est bon aussi pour le tourisme de l'Ouest francilien qui en a bien besoin en ce moment avec ce que nous vivons. Voilà, c'est tout pour ma chronique.
Merci beaucoup Caroline et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Noraline.
Allez, on va terminer cette émission Marmite fait son actu. Alors, vous le savez, hein, ce dimanche, donc le 28 juin, ce sont les élections municipales, le second tour des élections municipales. Et on a couvert, nous, on a essayé de couvrir, en tout cas, depuis le premier tour, avec tout ce qui s'est passé, avec la crise du Covid, etc. On a essayé de couvrir le premier tour et puis également le second tour dans des conditions voilà, un petit peu compliquées. Donc, je vous informe qu'il y a un débat là qui s'organise donc enfin qui s'est organisé et qui s'enregistre ce soir donc à TV 78.
Il sera diffusé demain, donc jeudi, à 20h, également diffusé sur Sensation, donc Radio Sensation qui est partenaire également avec TV78. Et puis nous également, nous sommes partenaires pour cette fois-ci, en tout cas pour le débat sur la ville de Trappes. Donc vous pourrez retrouver ce débat hein, pour vous faire, voilà, si vous êtes encore, vous savez pas encore pour qui vous voulez voter, si vous allez voter en tout cas ce week-end, on vous invite bien sûr fortement à vous déplacer pour exprimer votre choix hein, d'un des trois candidats ou en tout cas exprimer un choix quel qu'il soit, ça c'est votre liberté. Et du coup, il y aura à 17h ce vendredi le débat entre les trois candidats donc pour ce second tour. Donc je vais vous les rappeler. Donc Ali Rabé qui est arrivé en tête au premier tour pour la gauche unie pour que Trappes respire. Othman Nasrou pour la liste engagement Trappes citoyen qui était arrivé en deuxième position. Et puis en troisième position, c'était le maire donc actuel Guy Malandin pour Trappes, la gauche qui agit. Donc voilà, vous retrouverez ce débat sur nos antennes. Donc vendredi de 17h à 18h sur le 88.4. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Marmite fait son actu, c'est terminé. On se donne rendez-vous donc mercredi prochain de 17h à 18h pour un nouveau direct. Et puis n'hésitez pas, d'ailleurs j'oublie de dire quelque chose pour ceux qui ne peuvent pas aller voter ce dimanche, vous avez toujours la possibilité de faire des procurations. Voilà, c'est assez rapide à faire. Et chaque personne, en plus, qui peut aller voter, chaque personne peut avoir avec elle deux procurations. Donc voilà, la législation a évolué à ce niveau-là. Donc voilà, vous pouvez avoir deux procurations par personne. Donc voilà, si vous ne pouvez pas aller voter, pensez à une procuration. Voilà, si vous connaissez quelqu'un, n'hésitez pas à lui transmettre la procuration. Vous passez sur le site de la ville, trappes.fr, pour savoir comment justement faire une procuration, comment télécharger le document. Et puis ensuite, voilà, permettre à des personnes également de voter ce dimanche si les personnes ne peuvent pas se déplacer. On le sait, il y a des personnes qui ont peur de se déplacer, toujours dans ce contexte de Covid. Donc la procuration, ça peut être une solution. Donc n'hésitez pas, même si on rappelle que toutes les précautions seront prises, tous les gestes barrières, gestes sanitaires. Voilà, il y aura du gel hydroalcoolique. Vous pouvez venir avec vos masques, vos stylos, etc., etc. Donc voilà, tout est mis en place pour vraiment avoir une belle participation pour ces élections municipales. Et voilà, n'hésitez pas vraiment à vous exprimer par le vote. C'est très important. On est une radio citoyenne, donc évidemment, on vous dit que c'est important de voter. Donc voilà. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous mercredi prochain de 17h à 18h pour un nouveau Marmite Actu. Et d'ici là, portez-vous bien.
Marmite fait son actu tous les mercredis de 17h à 18h en direct sur Marmite FM 88.4. Retrouvez toute l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Revues de presse, cinéma, consommation responsable, agenda culturel et sportif. Nos invités vous parleront de leur actu. Marmite fait son actu, une émission présentée par Nouradine Agne sur Marmite FM 88.4.